Ah oui, ça marche. Bien, bonjour à tous. Donc, l'objectif de cette présentation aujourd'hui est double. Son premier objectif, c'est de présenter des résultats d'un des programmes du groupement d'intérêt scientifique SOLT, qui est le programme base de données d'analyse de terre. Et puis, de vous présenter aussi les résultats d'une étude qu'on a conduite en collaboration avec l'UNIFA sur l'évolution de la fertilité chimique des sols agricoles. Alors, le programme base de données d'analyse de terre, BDAT, est un programme du groupement d'intérêt scientifique SOL. Ce groupement, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, regroupe deux ministères, le ministère en charge de l'agriculture et celui en charge de l'environnement, ainsi que l'ADEME, l'INRA, l'IRD et l'IGN par la participation maintenant de l'IFN. Donc ce groupement a pour objectif de constituer le système d'information sur les sols de France et sur l'évolution de leur qualité. Il a été reconduit pour 5 ans et œuvre jusqu'en au moins 2016, on espère plus. Pour cela, donc, le groupement d'intérêt scientifique sol s'appuie sur 4 grands programmes d'acquisition de données sur les sols de France. Donc, le programme inventaire, gestion et conservation des sols et le programme réseau de mesure de la qualité des sols, RMQS, qui vise pour ces deux programmes à améliorer la connaissance et la surveillance des sols de France. Et puis, d'autre part, les programmes base de données des éléments traces métalliques, BDETM, et notre programme qui nous intéresse ici, BDAT, qui vise pour ces deux programmes à capitaliser les analyses de sols qui sont réalisées en France. Alors, pour ce dernier programme, le programme BDAT, il vise particulièrement à regrouper les analyses de sols qui sont réalisées sur les sols agricoles, à la demande des agriculteurs et réalisées par les laboratoires qui sont agréés par le ministère en charge de l'agriculture. Alors, la BDAT en 3 chiffres, c'est d'abord 20 ans de recul, c'est-à-dire qu'on a capitalisé des informations depuis 1990 jusqu'à 2009, et ça représente aujourd'hui plus de 2 millions d'échantillons de sols agricoles, soit plus de 24 millions de déterminations dans cette base de données. Ces échantillons se répartissent, bien sûr, au gré des motivations des agriculteurs qui demandent la réalisation de ces analyses, mais aussi au gré des laboratoires qui consentent ou non à collaborer avec nous pour fournir les fichiers d'analyse. Donc on obtient une répartition des échantillons qui est quand même exhaustive sur l'ensemble du territoire national, mais qui est hétérogène avec des déficits d'analyse, comme dans le sud-est de la France, ou la Sarthe, ou la Normandie, qui présentent donc ces déficits par rapport à cette façade ouest de la France qui est bien plus pourvue en analyse. Alors, un résultat, c'est quand même que cette base de données est une base de données en ligne, avec un outil de consultation qui permet de faire ses propres cartes, avec des outils de navigation géographique et puis aussi de navigation dans la base de données. Et puis aussi un outil qui permet d'exporter ces informations, des statistiques au niveau des cantons, qui permet de faire ses propres cartes sur son ordinateur. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est d'aborder les résultats d'une étude qu'on a conduite en collaboration avec l'UNIFA sur l'évolution de la fertilité chimique des sols, avec un point en se focalisant particulièrement sur deux paramètres qui sont le pH et le S sur T. Et pour ça, je passe la parole à Chloé Swiderski, qui a effectué l'ensemble de l'étude et qui va donc vous présenter les résultats.
Bien. Bonjour à tous. Donc, cette étude s'est effectuée en deux phases. La première phase a été l'observation de l'évolution de la fertilité des sols, donc en se focalisant sur les données de pH et de S sur T, sur les sols agricoles non calcaires, qui sont les sols susceptibles d'évoluer et d'être chaulés. Donc, pour effectuer cette étude, les analyses de la base de données des analyses de terre ont été regroupées par entité spatiale, donc à l'échelle de la petite région agricole, et regroupées par période temporelle, donc avec une première période regroupant les analyses réalisées entre 1996 et 1999, et une deuxième période, il y a une petite coquille sur le PowerPoint, regroupant les analyses effectuées entre 2005 et 2010. Donc, on constate sur la carte et sur l'histogramme qu'il y a une répartition des analyses hétérogènes autant dans l'espace que dans le temps, avec, comme l'a dit précédemment Nicolas Sabi, des analyses plutôt concentrées sur la moitié nord-ouest et moins d'analyses donc, dans la moitié sud-est. Et notamment, on repère les sols calcaires en Champagne et dans le bassin méditerranéen. Entre les deux périodes temporelles, on a également une distribution hétérogène puisque la dernière période d'analyse regroupe deux fois plus d'échantillons de sol. Donc, afin de procéder au test statistique, on effectue un rééchantillonnage selon la méthode de Monte Carlo afin de simuler deux échantillons homogènes. Et ensuite, on procède au test de Wilcoxon, qui est un test statistique non paramétrique basé sur la comparaison des rangs. Donc, les résultats pour le pH sont présentés à l'aide de ces trois vignettes. Donc, la vignette de gauche présente les résultats concernant l'évolution du pH, avec les régions en verte qui témoignent d'une augmentation significative du pH, en orange une diminution significative, en gris les zones qui ne présentent pas de tendance statistique marquée, et les régions en blanche qui sont des régions où on n'a pas pu effectuer le calcul, donc notamment avec les sols calcaires. La vignette en haut à droite présente les médianes de pH intégrés par petites régions agricoles sur, à la période T plus 1, donc 2005-2010. Et la dernière vignette présente les médianes des variations observées entre les deux lots d'analyse. Donc globalement, ce qu'on peut noter comme résultat, c'est qu'on a principalement des augmentations significatives du pH ou des zones floues où les tendances ne sont pas déterminées. Les augmentations significatives donc, se localisent en Bretagne, dans le Nord et en Alsace principalement, et touchent toutes les gammes de pH, puisqu'elles touchent à la fois des pH acides en Bretagne et des pH neutres à basiques, par exemple dans le Nord. La gamme de variation va à une perte de 0,79 points de pH et un gain jusqu'à 1,13 points. En termes de surface, les augmentations significatives, les tendances indéterminées et les zones où le calcul est impossible se partagent le territoire à chacune pour un tiers en termes de surface totale. Mais quand on regarde en termes de surface en terre arable, les augmentations significatives touchent quasiment 40% du territoire. Pour le taux de saturation, les résultats sont sensiblement les mêmes. On a principalement des augmentations significatives en Bretagne et en Alsace, et également beaucoup de zones grisées. Les gammes de taux de saturation allant de 39 à 115 points, avec des variations allant de moins 13 points à plus 38 points de gain de taux de saturation, avec une moyenne à 11 points. Dans une seconde phase, nous avons voulu estimer les besoins en valeurs neutralisantes en faisant deux simulations avec des objectifs de correction de pH à 6,3 et 6,8. Pour ce travail, nous avons utilisé les données de la BDAT les plus récentes, donc avec des échantillons prélevés entre 2005 et 2010. Et nous nous sommes servis de travaux menés par l'UNIFA, notamment pour le calcul de la valeur neutralisante. On a effectué le calcul en prenant le delta taux de saturation, c'est-à-dire le taux de saturation observé à la parcelle et le taux de saturation que l'on veut avoir après correction, la CEC et une relation pHS-sûreté. Sur les analyses de la BDAT, le travail a été mené en deux phases parallèles. La première phase a été l'estimation du pourcentage d'échantillons touchés par un redressement, duquel on extrapole le pourcentage de surface concernée par PRA. Et parallèlement, nous avons calculé une moyenne de valeur neutralisante par PRA pour ainsi obtenir un tonnage hectare de valeur neutralisante par PRA, donc spatialisé sur ces deux cartes, à gauche pour une correction de pH à 6,3 et à droite pour une correction de pH à 6,8. Donc les régions touchées par un besoin en valeur neutralisante sont la Bretagne, les Landes et la région Aquitaine, le centre, la Franche-Comté et la Lorraine. Pour une correction de pH à 6,3, on a un maximum de besoin à 7 tonnes hectares dans le centre, en Auvergne. Et ces besoins touchent environ 20% des échantillons de la BDAT, avec un tonnage total estimé à 4 millions de tonnes. Pour une correction de pH à 6,8, on a un besoin accru pour les régions déjà concernées par la correction à 6,3 et l'apparition de nouvelles zones ayant besoin d'ajout de chaulage. Donc là, on a 40% des échantillons de la BDAT qui sont concernés, avec un tonnage total estimé à 10 millions de tonnes. Donc en discussion, on peut dire que la BDAT s'apparente plus à une démarche d'enquête qu'à une prospection pédologique maîtrisée, comme c'est le cas par exemple pour le réseau de le RMQS, le réseau de mesure de la qualité des sols. Cet échantillonnage non maîtrisé s'explique principalement par la motivation des agriculteurs qui vont avoir tendance à demander des analyses sur des parcelles à problème ou des parcelles à fort enjeu agricole. Néanmoins, la valorisation de ces données est possible et on peut espérer l'améliorer, notamment en ayant des informations plus exhaustives par échantillon, avec un meilleur géoréférencement des prélèvements et des informations sur la profondeur de prélèvement. On rappelle que la base de données des analyses de terre n'a pas vocation d'être un outil d'aide à la décision. Là, c'est l'analyse à la parcelle qui est le plus adaptée à l'échelle de l'exploitation agricole, mais elle a une vocation d'inventaire au niveau national. Et enfin, une des limites à la détection statistique dans l'exploitation de ces données, c'est le nombre d'analyses dont nous disposons. Donc là, j'ai remis la carte d'évolution des pH en parallèle avec le nombre d'analyses dont on disposait. On peut faire un parallèle assez net entre les évolutions statistiquement significatives découvertes dans des zones où on a une exhaustivité des échantillons et les zones grisées où on ne peut pas tirer de conclusions statistiques sont des zones où on a moins d'analyses. Donc on pourrait supposer qu'avec plus d'analyses, on pourrait détecter des évolutions significatives qui, a priori, sont de plus faible amplitude puisqu'on ne peut pas les détecter pour le moment. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Donc, en conclusion, la BDAT, c'est plus de 2 millions d'échantillons de sols agricoles qui sont localisés dans le temps et dans l'espace. Ça nous offre une puissance statistique qui a les limites que j'ai citées précédemment. Cette étude nous a permis de montrer une tendance à l'augmentation des pH sur les sols agricoles non calcaires, néanmoins avec un besoin en valeur neutralisante qui est toujours présent et qui est estimé pour un scénario de redressement de pH à 6,3 et 6,8, respectivement à 4 et 10 millions de tonnes. Cette étude peut être étendue à d'autres paramètres d'intérêt agronomique. Nous l'avons fait pour le phosphore. Nous envisageons de le faire pour le potassium ou le nitrate. On espère également pouvoir acquérir plus d'informations sur les échantillons et notamment sur les profondeurs de prélèvement afin de pouvoir réaliser des bilans de stock. Et enfin, je rappelle qu'il est extrêmement important de poursuivre la collecte pour pouvoir augmenter le taux de couverture de la BDAT et pouvoir combler les lacunes ou être plus pointu dans nos analyses. C'est pourquoi j'insiste sur la nécessité d'une collaboration entre l'INRA, la BDAT et les laboratoires. Pour ceci, vous pouvez nous joindre à cette adresse et je vous remercie de votre attention.
Allô ? Ça marche ? Oui. Merci beaucoup, Chloé et Nicolas. Merci aussi pour avoir tenu parfaitement le temps. C'est extraordinaire. Donc, on a du temps pour des questions, des commentaires. Est-ce qu'il y a des personnes avec des baladeurs dans la salle? Mon problème, c'est que comme j'ai les projecteurs dans la figure, en fait, je ne vois pas les gens. Je ne vois pas qui lève le doigt pour poser des questions. Je vous demanderai de vous présenter.
Oui, bonjour, Antoine Calis, Société Auvinalp. J'ai deux questions, en fait. La première concernant l'augmentation du pH. Est-ce que vous avez une explication pour cette augmentation? Et la deuxième, est-ce que les parcelles, la comparaison entre les valeurs de pH sur les deux périodes, il me semble 95-96 et la deuxième 2005, je ne sais plus, est-ce que ça, les analyses ont été faites sur les mêmes parcelles, sur les deux périodes?
Alors la deuxième question est plus facile à répondre. Donc la deuxième question, donc c'était bien une... Ah, c'est pas assez près. Donc la deuxième question, donc, c'est plus facile. Ça concernait donc la comparaison entre les périodes 95-2000 et 2005-2010. Et donc, dans ce cas-là, on n'a pas du tout l'assurance d'avoir les mêmes parcelles, puisqu'on récupère des analyses comme elles le sont, et on n'a pas du tout l'assurance que l'agriculteur va refaire l'analyse sur la même parcelle. Donc, a priori non. Et la première question, c'était sur donc, l'augmentation du pH, pourquoi? Donc, les discussions, peut-être que Dominique pourra compléter, mais une des idées qui pourrait expliquer, c'est une meilleure gestion de la fertilisation et des apports d'azote au meilleur moment, et donc une meilleure gestion donc, du pH. Est-ce que ça, Dominique? Je demande à l'agronome.
En fait, on n'a aucune preuve là-dessus, hein, puisque on ne sait pas comment les parcelles ont été gérées, mais on peut penser, en particulier dans le Grand Ouest, en Bretagne, etc., qu'il y a eu une meilleure gestion de l'azote, et donc il y a eu un petit peu moins d'acidification. On peut penser aussi qu'il y a eu une baisse des dépôts atmosphériques en azote et en soufre. Ça, les Anglais l'ont montré, par exemple. Ils ont montré... sur un réseau systématique, ils ont réussi à mettre en relation en fait une augmentation des pH de leur sol avec une baisse des dépôts. Mais ce ne sont que des hypothèses.
Merci, bonjour. François-Xavier Gaumont, MEAC, mais aussi membre du groupe Cholage du Commifère. Je voudrais apporter une petite précision parce qu'effectivement, c'est surprenant dans votre présentation de constater que d'une part, on a une évolution des pH significative avec les réserves que vous avez mentionnées, honnêtement, et d'autre part, la quantité de besoins base qui reste néanmoins importante, même si on peut être d'accord que c'est pas forcément 6,3 ou 6,8 qu'il faut atteindre. Je voudrais quand même signaler que, comme producteur, il n'y a pas eu, dans le même temps, des évolutions significatives de livraison et de consommation d'amendements minéraux basiques. Donc, on ne peut pas faire de lien entre l'évolution des sols et plus d'amendements qui a été mis. Ce n'est pas vrai. Hein. C'est à peu près constant depuis une dizaine d'années. Ça n'a pas baissé, mais ça n'a pas augmenté significativement non plus. Et par contre, au groupe Cholage, on s'est attaché à essayer de mieux connaître tout ce qui faisait l'alourdissement ou l'allègement du bilan de proton, puisque c'est quand même le proton qui est à l'origine de l'acidité des sols. Et on s'est aperçu que quand on compare des pratiques à 20 ans d'écart en matière de fertilisation azotée, des pratiques qui ont une incidence sur les modifications du statut acido-basique et sur le bilan de proton, on s'aperçoit que quand on part ces pratiques à 20 ans d'écart, on a un écart énorme qui, comme disait Dominique, pourrait expliquer l'augmentation des pH, parce que si on amène la même chose et que d'un autre côté il y a un peu moins d'acidification, ben, globalement, on voit que ça s'améliore, mais on a encore du travail à faire. Voilà, merci.
Merci de ce commentaire et de cette précision. D'autres questions, d'autres commentaires?
Voilà, n'oubliez pas de vous présenter.
Merci. Oui, Jacky Bazir Carmeuse, producteur d'amendements et en même temps président de la section des AMB. Et bon, je tiens à vous remercier pour cette étude. qui ne peut que nous éclairer sur la situation. Et juste une précision, à savoir quel est l'impact pour vous de la variabilité potentielle d'un pH sur une année, et notamment vous, sur le plan statistique, comment vous avez appréhendé cet aspect-là des choses pour faire les comparaisons, notamment entre les périodes?
En fait, on n'a pas d'informations sur le mois de prélèvement de l'échantillon, on n'a que l'année, mais on n'a pas fait d'analyse sur les données brutes, on a procédé à un rééchantillonnage et répété la manipulation, donc en fait, on a pris des précautions par rapport à ça, et les résultats présentés sont des moyennes faites à la suite de plusieurs répétitions du même test. Donc c'est vrai qu'il y a des précautions à prendre par rapport à la variabilité interannuelle du pH, mais ce n'est pas le cas pour le taux de saturation qui est plus stable, et on a quand même des résultats sensiblement égaux. Donc,
si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, justement si dans la BDAT on pouvait avoir la date exacte de prélèvement, en fait, pas la date d'analyse, la date de prélèvement, de l'échantillon, ça pourrait peut-être nous aider à mieux capter justement cette affaire de variabilité interannuelle. On sait qu'elle est importante. On suppose que, vu les centaines de milliers d'échantillons qu'on a et vu les méthodes de Monte Carlo qu'on utilise, etc., on arrive à la lisser un petit peu. Mais si on pouvait en plus avoir une idée de cette variabilité interannuelle et la cartographier, on serait très content.
Oui, merci beaucoup, parce qu'effectivement, c'est un point de précision et donc d'interprétation et de compréhension et de connaissance de l'évolution du statut acido-basique des sols qui serait intéressant de préciser. Et puis juste un petit commentaire pour dire que je m'aperçois qu'en tant que producteur d'AMB, nous avons encore du travail à faire. Et merci, parce que votre contribution ne peut que nous aider à mieux comprendre en fait comment tout ce qui interagit dans l'évolution du statut acido-basique. Il y a d'autres produits, mais on s'aperçoit aussi que c'est dans un ensemble plus complexe. Donc merci.
Bon, il reste le temps pour une ou deux questions. Il reste 2 minutes.
Je laisse François.
Bonjour, Mathieu Vallée, groupe SAS Laboratoire Agrosystème. Donc c'est pas tant une remarque sur l'étude pH, mais plus sur la BDAT en règle générale. Nicolas, tu nous as dit 2 millions d'analyses sur 20 ans. Donc si je fais le calcul, ça fait 100 000 analyses par an, à peu près. Quand on sait que le marché français, il est plutôt à 250, parfois il a été jusqu'à 300 000 analyses de terre par an. Donc comment expliquer le delta, en gros, qu'on soit à peine à la moitié des analyses qui sont retenues dans la base? Est-ce que c'est déjà au fait que tout le monde ne participe pas et qu'il y ait un pourcentage de déchets? Est-ce que tu as une petite explication à donner là-dessus?
C'est vrai qu'il y a, comme tu dis, des déchets. Donc il y a à peu près 20% des analyses qu'on n'arrive pas à localiser parce que sur le bordereau d'analyse, le nom de la commune a mal été orthographié et qu'il faudrait passer à la main chaque analyse, et ce n'est pas possible de faire ça. On a des programmes et on en rejette quand même 20%. Des fois, on n'a même pas d'informations. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'on a des laboratoires qui ne collaborent pas, donc il nous manque une partie de l'activité. Les analyses qui sont effectuées en France.
Ouais. Il y a aussi des laboratoires qui ne sont pas agréés par le ministère et qui donc ne sont pas dans le programme, par définition, puisqu'il est financé par le ministère.
Mais on ne perd pas l'espoir de pouvoir compléter la base.
Bien, je crois qu'il va falloir, va falloir s'arrêter là, parce qu'on on est au terme des 25 minutes. Donc je remercie Chloé et Nicolas.